Marion Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Palmyre, Bamiyan, la mosquée des Omeyyades à Alep, autant de sites du patrimoine mondial victimes de la fureur des hommes, de la terreur des extrémismes religieux. Pour ne pas oublier ceux qui ont été détruits et pour préserver ceux qui ne le sont pas encore, les initiatives se multiplient à travers le monde. Ainsi à Paris, l'Institut du monde arabe propose une exposition spectaculaire et entièrement virtuelle faite de reconstitutions 3D et de contenus sur l'histoire de ces sites et des civilisations qui les ont bâtis. L'exposition démarre mercredi prochain. En seconde partie d'émission, nous feuilleterons la presse régionale Israël et monde arabe avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire. Nous sommes en compagnie d'Aurélie Clémenté-Ruiz, directrice du département des expositions de l'Institut du monde arabe à Paris. Bonjour madame.
Bonjour Éric Bataillon.
Alors quelles sont ces cités millénaires que vous nous montrez dans cette exposition dont vous êtes la commissaire ?
On a décidé de vous emmener dans 3 pays pour visiter 4 cités. Alors, la première, c'est Mossoul, en Irak. Ensuite, on part à Alep, en Syrie. Et puis, on termine avec 2 sites archéologiques, Palmyre, toujours en Syrie. Et puis, Leptis Magna, en Libye, un site un peu moins connu du grand public, mais qui nous paraissait important de pouvoir présenter, tant il est important d'un point de vue historique que par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Libye.
Alors pourquoi avoir choisi seulement, si je puis dire, ces 4-là ? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres sites qui auraient mérité d'être eux aussi montrés ?
Si, bien évidemment, on aurait pu en choisir beaucoup plus. Maintenant, il a fallu sélectionner. Ce travail n'a pas été simple, mais on a travaillé un peu par filtres successifs, puisque le projet de l'exposition, le but, c'était vraiment de montrer aujourd'hui différents sites, sites archéologiques et sites urbains, face aux récents conflits dans le monde arabe. Donc on a choisi un certain nombre de pays qui ont connu ou connaissent encore des situations de conflit. Donc c'est pour ça qu'on est allé en Irak, en Syrie et en Libye. Ensuite, il était important pour nous d'avoir, donc je disais, à la fois des villes et des sites archéologiques. Donc là, on en a 2 exemples de chaque. Et puis ensuite, on a travaillé aussi par rapport à la matière qu'on pouvait récupérer, puisque cette exposition ne présente pas d'œuvres physiques. Nous sommes sur des reconstitutions de l'image vidéo, de la photo. Et donc, on a travaillé avec une société, une start-up française qui s'appelle Iconem, qui avait déjà un certain nombre de matières. Ils étaient allés notamment beaucoup en Syrie en 2016 et 2017, à Alep et à Palmyre. C'est pour ça qu'on a aussi choisi ces villes. Ensuite, on a complété avec des missions plus récentes dans les villes de Mossoul et Leptis Magna. Mais effectivement, on a choisi ces sites aussi parce qu'ils ont tous une histoire longue et qu'ils résonnent dans l'imaginaire collectif. On aurait pu en avoir d'autres. Dans un premier temps, on souhaitait par exemple évoquer Sanaa au Yémen. Malheureusement, nous n'avons pas pu envoyer d'équipe sur place. Le conflit fait qu'aujourd'hui, c'est impossible en fait. Et donc, on a dû y renoncer. Donc voilà comment on a choisi ces villes.
Alors justement, on comprend pour Sanaa où il est difficile d'aller. Alors, sachant que certains sites du patrimoine arabe ont été détruits, d'autres sont en difficulté, mais certains ont été détruits, qu'est-ce que vous montrez précisément et comment ?
Alors, le discours est assez différent sur les chaque site. On les a aussi choisis parce qu'ils ne racontent pas la même histoire. Donc, le principe de l'exposition, c'est à partir des relevés drones, vidéos et photos faits par la société Iconem, on a retravaillé avec une technique de photogrammétrie, donc utilisée vraiment pour avoir une exactitude de relevé des sites. C'est utilisé par les archéologues et les architectes. Et on a travaillé alors avec la technique du nuage de points pour reconstituer ces sites en 3D virtuellement. Donc on voit des vidéos, des sites tels qu'ils sont aujourd'hui. Donc par exemple, on va avoir un survol de la vieille ville de Mossoul qui a été libérée il y a 1 an maintenant pour voir dans quel état elle est aujourd'hui. Et on a décidé sur certains monuments emblématiques de les reconstituer virtuellement, c'est-à-dire que ce sont des monuments qui aujourd'hui ont été détruits. Par exemple, la mosquée Al-Nouri de Mossoul qui a été dynamitée par Daesh lorsqu'ils ont quitté la ville, eh bien nous la faisons renaître virtuellement dans ces vidéos. Donc on a travaillé travaillé sur cette base-là avec Iconem, et ensuite on a travaillé avec un réalisateur de films, avec un compositeur sonore qui a réellement créé un récit autour de chacun de ces sites. Voilà.
Alors justement, ce sont des images visiblement spectaculaires, le visiblement est peut-être de trop. Comment être sûr qu'elles sont conformes à ce qui a été la réalité de ces monuments ?
Alors, on a travaillé avec des archéologues, des scientifiques, des universitaires pour vérifier effectivement qu'on n'avait pas des représentations fantaisistes. C'était extrêmement important pour nous d'être dans la véracité des choses. Par exemple, pour Leptis Magna, toutes les reconstitutions ont été validées par la mission archéologique française en Libye et Vincent Michel, qui dirige cette mission, qui est notre partenaire sur le projet. Pour Palmyre, on a voulu notamment travailler sur le temple de Baal Shamin, qui est étudié aujourd'hui par l'Université de Lausanne, qui conserve tous les fonds archéologiques, notamment de Paul Collard, qui avait fouillé le site dans les années 50. Et donc, on est parti de ces données archéologiques pour faire les reconstitutions qui ont ensuite été validées par l'Université de Lausanne. Donc systématiquement, on a essayé de s'appuyer sur les spécialistes du sujet pour être sûr que, bien évidemment, nos reconstitutions étaient conformes à l'origine.
Alors justement, est-ce que dans l'exposition que l'on va pouvoir découvrir à l'Institut du Monde Arabe à Paris, il y a un complément historique qui accompagne la mise en lumière, si je puis dire, de tous ces bâtiments du patrimoine mondial ?
Oui, on ne voulait pas laisser le visiteur face au choc des images, même s'il y a un vrai choc. Hein, c'est extrêmement émouvant de voir ces images. Je pense qu'il y a une réelle empathie qui se dégage de ces très très grandes projections, mais ça ne suffisait pas. C'est-à-dire qu'il faut contextualiser. Comme je le disais, si on a choisi ces sites, c'est parce qu'ils ont une histoire longue, parce qu'ils sont beaux aussi. Il y a des monuments vraiment magnifiques pour certains. Et c'est important d'inscrire l'histoire récente qu'on a tous un peu vu à travers l'actualité dans cette histoire beaucoup plus longue. Donc en complément de ces très grandes projections, on a mis en parallèle déjà des images d'archives pour montrer les sites tels qu'ils étaient avant les conflits. Et au centre de chacune de ces salles où il y a ces grandes projections, on a des tables de médiation dynamique qui racontent l'histoire des sites, l'histoire des monuments, voilà, pour donner un peu de contexte. Et en parallèle de ça, on a créé des petites salles un peu plus intimes où on va creuser une thématique spécifique en fonction des sites. Donc par exemple, pour rester encore sur Mossoul, on va parler de l'importance des différentes religions dans la ville de Mossoul, qui est depuis toujours une ville où il y a énormément de communautés ethniques et religieuses différentes. Donc on va parler aujourd'hui, quelle est l'histoire des chrétiens à Mossoul, des juifs, des yézidis, mais aussi des musulmans, parce qu'il y a les sunnites, il y a les chiites. Et on va raconter à travers un petit documentaire qu'on a fait spécialement aussi pour l'exposition, l'histoire de ces différentes communautés. Et je précise que tout le contenu de l'exposition est complètement inédit. C'est vraiment une production de l'IMA, grâce au concours d'Iconem, qui nous a fourni un certain nombre de contenus. On a travaillé également avec l'UNESCO sur ce projet, avec un certain nombre de partenaires scientifiques, pour, encore une fois, contextualiser l'ensemble de notre discours et ne pas rester juste sur l'émotion des images.
Alors justement, c'est une exposition qui semble extrêmement spectaculaire, avec un contenu extrêmement fort. En quoi est-ce important aujourd'hui de montrer ces sites détruits ou, pour certains, en passe de l'être ?
C'est important pour faire prendre conscience à un large public que aujourd'hui ces destructions qui ont lieu dans le monde arabe, eh bien c'est notre histoire au sens large avec un grand H, c'est l'histoire de l'humanité qui est détruite, c'est extrêmement important. Quand on est à Mossoul, Mossoul est en partie construit sur le site de Ninive. Ninive, c'est une des plus anciennes villes de l'histoire du monde. Aujourd'hui, c'est un site qui a été partiellement rasé, pillé par Daesh. Donc c'est toute une partie de l'histoire de l'humanité qui disparaît. Et cette prise de conscience de la part de tout le monde, elle est essentielle parce qu'on se rend compte que ça peut arriver du jour au lendemain, finalement. Et c'est vraiment le message principal de l'exposition, de dire, finalement, c'est pas juste parce que c'est dans le monde arabe, c'est très loin, on voit ces images à la télé, finalement, mais peut-être qu'on se rend pas forcément compte de l'impact et de l'importance que ça a pour les générations futures. Et d'ailleurs, on a voulu terminer l'exposition en ouvrant avec une dernière vidéo sur d'autres sites à travers le monde qui subissent différents types de dangers, parce qu'à un moment donné, il n'y a pas que les conflits qui menacent les sites, il y a aussi le réchauffement climatique, il y a aussi l'abandon parfois et le désintéressement qui font que les sites se détériorent et certains sites, si on ne s'en préoccupe pas un peu, disparaîtront et c'est tout ce patrimoine-là qu'on n'aura plus jamais pour les générations futures.
Alors vous parlez de prise de conscience, ne s'agit-il pas d'une prise de conscience surtout des pays occidentaux qui ont peut-être les moyens de mettre en œuvre des secours pour ce patrimoine, alors que le monde arabe semble peut-être se désintéresser un peu plus de tout ce patrimoine?
Alors je ne pense pas, je pense qu'aujourd'hui au contraire il y a une vraie prise de conscience dans le monde arabe de ce patrimoine, ce qui n'était peut-être effectivement pas le cas il y a quelques années, mais aujourd'hui on sent une vraie différence. Je le vois notamment dans le programme de l'UNESCO qui vient d'être lancé, qui s'appelle « Faire revivre l'esprit de Mossoul ». Le financement de ce programme pour reconstruire la ville de Mossoul est majoritairement financé par des pays arabes, par les Émirats. Le Koweït vient de s'engager également. Donc ce sont des pays arabes qui s'engagent pour la reconstruction de ces villes et de ces sites. Donc il y a une vraie prise de conscience, il y a une vraie volonté d'agir pour conserver ce patrimoine. Et d'ailleurs, on est aujourd'hui en pourparlers avec un certain nombre de pays arabes pour accueillir l'exposition chez eux, parce qu'ils se rendent compte aussi de l'importance pour la population de ces pays-là, de cette prise de conscience, de comprendre l'importance de ce patrimoine, du patrimoine du monde arabe qu'il faut protéger à tout prix aujourd'hui.
Qui peut leur permettre aussi de mieux comprendre leur propre culture.
Tout à fait.
Merci Aurélie Clémenté-Ruiz, directrice du département des expositions de l'Institut du monde arabe à Paris. Et je renvoie donc à ces cités millénaires, voyages virtuels de Palmyre à Mossoul. C'est une exposition donc à l'Institut du monde arabe, à voir jusqu'au 10 février et ça démarre mercredi prochain.
Orion Hebdo sur RFI.
La musique que nous écoutons en ce moment est la musique originale de l'exposition Cité Millénaire qui s'installe donc dès mercredi prochain à l'Institut du Monde Arabe à Paris. En attendant, nous allons au Caire et à Jérusalem retrouver Alexandre Bouchanti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
On commence avec vous Alexandre et cette tentative de rapprochement irano-saoudienne selon le journal Al-Quds Al-Arabi.
Le journal cite un tweet du ministre iranien des Affaires étrangères, Jawad Zarif, où il invite l'Arabie à mettre sa main dans la main de l'Iran pour arrêter l'arrogance du président américain Donald Trump et ses affronts à l'égard du royaume après sa déclaration selon laquelle l'Arabie saoudite ne pourrait pas tenir 2 semaines sans le soutien américain. Mais la presse saoudienne ignore le tweet du chef de la diplomatie iranienne et consacre de nombreux articles aux problèmes économiques de l'Iran. Elle reprend même des analyses affirmant que les missiles anti-aériens S-300 fournis par la Russie à la Syrie sont en fait destinés à défendre l'Iran contre Israël.
Michel Paul, à retenir la situation à la frontière avec Gaza.
Israël et Gaza au seuil d'une nouvelle confrontation armée, c'est l'impression très forte que l'on reçoit à la lecture de la presse israélienne de ce week-end. Course contre la montre à la frontière avec le territoire palestinien, titre un quotidien qui, comme tous ses confrères, explique que l'armée israélienne déploie des renforts sur ce front. Israel Hayom, le journal proche du gouvernement, cite en manchette le message israélien au Hamas. Si vous attaquez, ce serait une très grave faute. Un test sur le terrain, estime Mariv, qui parle de poudrière. Mais l'événement, Eric, en cette fin de semaine, c'est une interview exclusive que l'on trouve dans Yediot Aharonot. Pour la première fois, le chef du Hamas à Gaza accorde une interview à un journal israélien par l'intermédiaire d'une journaliste italienne. Yahya Sinwar proclame notamment « Je ne dis pas que je ne combattrai plus, mais je dis que je ne veux plus de guerre. Le moment est venu de procéder à des changements » et le leader palestinien affirme encore « Dans la situation actuelle, l'explosion semble inévitable. Une interview importante pour mieux connaître l'ennemi, souligne un commentateur.
Des militants de gauche retenus par les services de sécurité israéliens à l'aéroport Ben Gurion. Michel, cette pratique décriée est analysée par le quotidien Haaretz.
Un sujet qui avait fait les titres pendant l'été, après plusieurs interrogatoires, notamment de journalistes à qui le Shin Bet, le service de sécurité intérieure en Israël, avait demandé ce qu'il pensait du premier ministre israélien. Haaretz révèle qu'en fait, le service de contre-espionnage israélien se base sur de simples recherches sur Google ou alors sur des sites de droite aux États-Unis, notamment le site Mission Canary. Et toujours dans Haaretz, et dans le même ordre d'idées, la liste des sites internet fichés est suivie par l'armée israélienne. Il comporte notamment le site web d'une députée travailliste et celui des fans du club de foot Maccabi Haïfa. Bizarre, estime un commentateur.
Alexandre, selon le journal Alayat, les autorités égyptiennes seraient préoccupées par les chaînes de télé israéliennes en arabe.
Le journal cite des informations de sources israéliennes selon lesquelles l'État hébreu s'apprêterait à lancer un bouquet de chaînes de télévision en arabe comprenant des films, des feuilletons, du sport et des programmes pour jeunes et enfants, en plus des chaînes d'information. La majeure partie du contenu sera d'origine égyptienne, obtenue par piraterie ou des moyens dévoyés selon Al-Haya. Le bouquet sera diffusé à partir de la position du satellite égyptien Nilesat, qui a loué cette position à des opérateurs étrangers du Golfe et français. La plupart des Égyptiens ne regardent plus la télé hertzienne, mais les centaines de chaînes diffusées via Nilesat. L'objectif israélien, selon le journal, est de tenter de conquérir l'opinion publique égyptienne, qui reste hostile à l'État hébreu, malgré le traité de paix.
Quant au journal Al-Sharq Al-Awsat, il nous apprend qu'une Saoudienne veut créer une équipe féminine de course automobile.
Elle s'appelle Lamia El-Husseil. Elle est architecte et passionnée de course automobile. Plus précisément, le karting, où elle s'est classée troisième dans la première course organisée en Arabie Saoudite. Elle veut créer une équipe féminine saoudienne de karting pour participer aux événements internationaux. Rappelons que les Saoudiennes n'ont été autorisées à conduire dans le royaume que depuis quelques mois. Lamia espère que son équipe féminine s'illustrera en karting comme les équipes masculines des Émirats se sont illustrées dans les rallyes.
Pas d'automobile, mais le vélo à la une de la presse israélienne, Michel.
La bicyclette électrique, c'est probablement le sujet qui préoccupe le plus les Israéliens cette semaine, à la suite d'une série d'accidents mortels. Il faut dire, Eric, qu'il est difficile de se déplacer sur un trottoir à Tel Aviv sans être heurté par un de ces bolides. Yedioth Ahronot consacre un dossier à ce sujet, qui a également été abordé par le gouvernement israélien lors de sa dernière réunion. Mais pour l'instant, font remarquer les chroniqueurs, sur cette question, comme sur bien d'autres, pas de solution en vue.
Allez, pour conclure, Michel, votre image de la semaine.
Eh bien, c'est la photo de la chancelière Angela Merkel en visite ultra courte en Israël. Benjamin Netanyahou aurait accepté de sursoir à la démolition du village bédouin Khan el-Ahmar pendant le séjour de Madame Merkel en Israël.
Merci Michel, merci Alexandre. Vous pouvez retrouver cette émission réalisée par Mathias Golchani sur notre site www.rfi.fr ainsi que sur notre page Facebook. Vous pouvez également la podcaster sur notre appli Pure Radio. Demain, nous parlerons du sort réservé aux travailleurs étrangers au Qatar. L'Émirat est engagé dans une refonte complète de son code du travail, mais dans les entreprises, la situation reste délicate pour les migrants, notamment népalais, nous dira notre invité Tristan Brûlé, spécialiste des migrations du travail. On se quitte avec un peu de musique, la musique originale de l'exposition Cité millénaire à l'Institut du monde arabe.
Écrire orient.hebdo@rfi.fr.
À demain donc, tout de suite, un nouveau journal.